Je souhaiterais peut-être que tu reviennes, même si tu l'as explicité à plusieurs reprises, mais sur cette tension entre impersonnalité du chercheur et récit. Parce que se joue quelque chose de compliqué, de paradoxal, tu l'as dit. Peut-être repartir aussi de cette notion de fiction que le récit amène forcément. La notion de récit de Genèse nous fait écho à la notion de fiction.
Ouais. Sur la question de la personnalité, évidemment, moi je parle d'un point de vue flaubertien, j'ai du mal à éviter mon auteur, quoi. Mais ce n'est pas une mauvaise technique. L'impersonnalité, ce n'est pas négatif, ce n'est pas une soustraction. C'est au contraire un don. La personnalité, c'est faire à l'autre sa place. C'est-à-dire... penser au lecteur, c'est-à-dire mettre dans le texte le vide qui est nécessaire au lecteur pour qu'il trouve sa place dans ce texte, c'est-à-dire de la façon qu'il puisse dire « je », quoi, à la place de l'auteur, qu'il puisse devenir l'auteur. Ça veut dire construire toutes les conditions dans le récit pour que aucune de mes répugnances personnelles, de mes préférences personnelles, ne vienne faire obstacle à l'adhésion que le lecteur pourrait faire de ce texte en y entrant pleinement. Hein. C'est-à-dire, de toute façon, c'est là que c'est très compliqué si on prend un récit de Genèse, ce que je dis, c'est que je pense qu'il faut que l'écrivain du récit de Genèse soit assez impersonnel pour rendre au lecteur la possibilité de devenir l'auteur qui a produit le texte dont il parle. De se mettre à la place de, si je fais le récit de Genèse d'une œuvre de Flaubert, moi, Gabin Gugliasi, en train d'écrire mon truc, mon but, c'est que mon lecteur se sente Flaubert en train d'écrire ce truc, comprenne ce que c'était que Flaubert en train d'écrire. Et donc il y a trois, c'est un jeu à trois pions, quoi. Et pour que ce jeu à trois pions marche, il faut que dans mon texte, je place du vide. Je place le vide de ce qu'était, de ce que sera, pardon, la place d'un lecteur que je ne connais pas. Tant je ne connais pas les compétences, qui sera peut-être un lecteur dans 20 ans. Mais il faut avoir cette prétention-là, qui est une prétention littéraire, en fait. C'est un souci de l'autre. Qui va, la plupart du temps, je ne dis pas que ça doit être systématique, mais pour moi, être la règle qui m'interdit d'être trop personnalisant, quoi, trop personnel dans la manière d'aborder ou de présenter les choses. Voyez. C'est. Pour laisser à. Au lecteur toute latitude, toute liberté de pas seulement de comprendre, mais de ressentir, d'être à l'intérieur, quoi, en empathie avec ce qui se dit. Je vois si c'est assez clair. Ce qui est compliqué, c'est qu'on n'est pas sur... Vous voyez, quand on est dans un roman de Flaubert, bon, ça va être sur la politique, sur l'amour, sur des choses du récit, quoi. Quand on est dans un récit de Genèse, c'est sur les processus d'écriture d'un autre texte. Mais, d'une certaine façon, la question est la même. Après, la question c'était sur la fiction...
Dans l'expression de récit de Genèse, le mot de fiction est sous-entendu par le terme de récit.
Absolument.
Et il nous fait peur à double titre, je pense, en tant que chercheur, apprenti généticien. On a peur de deux choses... Peut-être que l'écrivain reconstruise lui-même une chronologie, fasse fiction.
C'est une question très importante, mais à laquelle il y a une réponse très simple. C'est que, comme je disais, le dossier de Genèse est divisé en deux. Le dossier de Genèse, il y a ce qui est proprement parlé du dossier de Genèse, qui sont des documents indiscutables, à moins que ce soit des faux, mais ça, c'est dans la phase d'authentification que vous allez voir si c'est vrai ou faux. Un brouillon, c'est un brouillon. Après, l'écrivain peut vous en dire ce qu'il veut. Le brouillon, c'est un document objectif. C'est-à-dire qu'il y a des ratures, il y a des modifications, ça, elles ont eu lieu. Bon, ok. Après, est-ce que l'écrivain peut vous en dire dans une lettre, ou directement par interview, ou dans une communication, dans une, etc. Ça, méfiance totale. Vous voyez, c'est-à-dire que l'écrivain est un menteur, bien entendu. Et la correspondance sert à mentir beaucoup plus qu'à dire la vérité. Regardez toutes les correspondances. Quand vous écrivez à votre mère, à votre copain, forcément, c'est pour mentir, c'est pas pour dire la vérité. C'est pour dire... Et oui, la preuve, c'est que si on comparait vos lettres, l'une à vos parents, l'autre à votre amant, le troisième à une copine, ça ne sera pas du tout la même histoire, vous allez raconter. Donc, tout ce qui relève de, disons, de la confidence, du témoignage, est suspect. Aucun inspecteur de police ne se référera à une lettre pour croire ce qui s'est passé. Voilà. On fait comme l'inspecteur de police, ou comme Hercule Poirot. C'est-à-dire que la trace réelle d'un processus tel que le brouillon le montre, ça, c'est indiscutable. En revanche, la lettre où l'écrivain raconte ce qu'il vient de faire dans son brouillon, ça, c'est totalement indiscutable. Soit qu'il est de mauvaise foi, soit qu'il ne comprend pas ce qu'il fait, ce qui est tout à fait possible. La plupart du temps, il ne comprend pas ce qu'il fait. Et c'est à nous de comprendre ce qu'il fait. C'est pas son job de comprendre ce qu'il fait. Son job, c'est de faire. Un créateur, il n'est pas sommé de comprendre ce qu'il fait. Il est sommé de faire bien. Si la justification de la génétique existe, c'est au sens où ça nous intéresse de savoir comment ça s'est produit. Mais l'essentiel, peut-être, c'est que ça soit produit, effectivement. Alors, pourquoi fiction ? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, même lorsque j'ai affaire à quelque chose qui est sûr, qui est de l'ordre de l'archive, de la trace, de l'indice, je vais reconstituer un scénario temporel qui n'existe en dehors, nulle part. Ça a eu lieu, ça a eu lieu, quoi. Mais comme dirait Marc, mais il n'y a pas de photo de ça. On n'a que des traces. Donc, je suis obligé de reconstituer quelque chose qui est fictif. Mais la vérité peut être fictive. Je veux dire, un discours de vérité est nécessairement un discours. Si c'est un discours, il est dépendant des règles de langue qui permettent de l'articuler. Ça, c'est une fiction, déjà. C'est ce que Nietzsche nous dit sans arrêt. Quand vous dites « je pense, donc je suis », vous avez déjà le verbe être. Alors, c'est foutu, puisque il n'y a même plus à poser de questions, puisqu'il y a le verbe être. C'est toute l'ontologie qui dépend du verbe être, en réalité. Donc, à partir du moment où on est dans le langage, et dans la narration, et dans le récit, on est nécessairement dans la fiction. Mais ça ne veut pas dire que cette fiction est fausse. Ça veut dire qu'elle est, comme toute fiction, dépendante du langage, et dépendante d'un certain nombre de preuves. Alors, la question de la preuve est une question compliquée, une question philosophique. Parce que, d'une certaine façon, les traces de la jeunesse, ce ne sont pas des preuves. Si, ça serait toute une après-midi de discussion. À mon avis, avec des preuves, on ne fait que du probable. Et la génétique, elle prétend faire du probant. Ça fait une différence majeure. Le probable, je peux dire ça, je peux dire autre chose. Je peux penser ça ou penser le contraire. Le probant, non. C'est, je le montre, c'est comme ça, et vous êtes d'accord. Vous ne pouvez pas ne pas être d'accord. C'est comme ça que ça a eu lieu. Voilà. C'est cet effet de probance, si le mot existait, qui doit être l'effet du récit de Genèse. Vous voyez, vous êtes, c'est pour ça qu'il doit, le récit de Genèse doit utiliser le suspense, doit utiliser toutes les ficelles de la narration, pas pour changer la vérité, pas pour dire des mensonges, mais moi je dirais plus simplement pour reconstituer chez le lecteur l'émotion qui a été celle du chercheur quand il a découvert. Tout d'un coup, moi je me souviens que j'avais écrit un texte quand j'étais tout jeune chercheur qui s'appelait Paranoïa Genèse. Et où je disais, en fait, c'était fait très étrange. Après ma thèse, j'avais passé 3 ans dans les brouillons des 3 contes de Flaubert. Et à la fin de ma recherche, j'avais même plus besoin de déchiffrer, je savais à l'avance ce qui allait se passer, les transformations. Parce que j'avais intégré toutes les, au fond, tous les mécanismes de l'écriture de Flaubert, et l'encre était comme redevenue fluide, quoi, dans le manuscrit, sous sa plume. C'est-à-dire que le cerveau, je pense, est capable d'intégrer beaucoup plus de variantes que ce qu'on sait exprimer rationnellement. Et donc, il est capable de calculer très vite toutes sortes de choses. Eh bien, il y a quand même eu des moments dans cette recherche où j'ai eu l'impression de découvrir des choses. Le récit de jeunesse doit être capable de transmettre au lecteur l'émotion de ça. Hein, c'est... Alors bien sûr que tout ça relève de la fiction, de l'empathie, de choses psychologiques, etc. Ah oui, mais je veux dire, si vous n'utilisez pas ces moyens, vous n'aurez pas de lecteur, tout simplement. Donc il n'y aura personne à qui transmettre. Et le but, c'est de transmettre. Enfin, on a vu.
Donc, est-ce que je peux être... excusez-moi, si je prends un peu plus de place. J'ai fait le voyage pour ce temps. On va essayer de deviner quelques questions, si vous permettez. Ma première question, très simple, est-ce qu'il existerait un texte, un document, quelque part, assez proche de cette conception du récit de jeunesse, auquel on pourrait se référer? Moi, je suis pragmatique, j'aime bien voir les choses. Et faire le va-et-vient entre ce qui est donné comme, je dirais, projet et ce qui existe comme étant objet existant auquel on peut se référer. Parce que pour l'instant, ce programme-là me paraît extrêmement prétentieux.
Prétentieux et agressif, hein, comme
façon de dire. Non, prétentieux et intéressant, mais...
Je garde prétentieux.
Pour moi, là, il est très tard. Hein. Dans la nuit. Donc, oui, ambitieux, mais si par exemple, avec un écrivain comme Flaubert, qui était très méthodique, on peut arriver à quelque chose d'assez proche, avec un écrivain comme Frédéric Thiers, qui a pris systématiquement l'habitude, sauf qu'au moment où je l'ai arrêté une fois, je ne suis même pas sûr que ce manuscrit ait été conservé entièrement, et les quelques manuscrits que Jean-Pierre Bernet a conservés, il n'existe aucune trace.
Bon, c'est deux questions différentes, ça.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a des cas où cette ambition peut être envisagée, puis d'autres cas, on doit dire, non, on ne peut même pas l'envisager. On ne peut même pas l'envisager. Mais j'aimerais voir, est-ce qu'il existerait actuellement quelque chose auquel on pourrait se référer.
Écoutez, tous les travaux des Flaubertiens sur Flaubert ou des Proustiens sur Proust essaient de coïncider, je crois, avec ce que je viens de dire. Bon, moi, dans ma biographie intellectuelle de Flaubert, j'ai essayé de le faire un peu. Je vais le faire mieux, peut-être dans la deuxième biographie que je suis en train d'écrire pour Fayard. Mais par exemple, il y a dans... Ah non, c'est pas là-dedans, du tout.
Non.
Mais...
Parce que j'ai...
Non, il y a une... comment dire... Il y a une variété très grande de récits de jeunesse possibles. Vous pouvez avoir un récit de jeunesse en zoom. Par exemple, j'avais fait l'analyse des transformations des deux premières lignes de Saint-Julien l'Hospitalier. Là, j'essaie de montrer les métamorphoses fondamentales de ces deux lignes. Presque, c'est une histoire qui permet de comprendre toute la jeunesse du truc. Voilà un zoom sur lequel, si vous avez toutes les versions, les six versions de la première phrase, vous pouvez écrire pratiquement 30 pages, où vous allez étudier dans le détail chacun des moments, tout ce qui s'est passé. Et vous pouvez le faire de façon comme une fiction, hein, plus ou moins. Quoi. Mais quand les Proustiens publient les cahiers de Proust, ils font ce travail de narrativisation. Alors l'autre question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas? Alors ça, c'est tout à fait l'autre question. selon la richesse des moyens, hein, des traces, vous allez pouvoir envisager plus ou moins de récits de Genèse. Si vous êtes vraiment très pauvre, c'est-à-dire que vous avez, mettons, je ne sais pas, deux éditions du vivant, quelques lettres, peut-être une dactylographie, bon. Mais pratiquement pas de brouillon, pas de plan, pas de scénario, pas... Ben, là, vous êtes évidemment dans une situation beaucoup plus difficile. Vous êtes obligé de prendre tout ce que vous savez de contextualisation, les témoignages, les correspondances, les récits des amis, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on peut scientifiquement établir sur le milieu social, l'histoire politico-sociale, etc. Enfin, bref, tout l'environnement de l'écriture, tous les éléments biographiques, etc. Et vous mettez ça, tout ça ensemble, en essayant de donner le plus de place possible à ce qui est vérifiable comme trace. Mais évidemment, si vous n'avez pas beaucoup, bah, vous serez limité là-dedans. Mais ça n'empêche pas du tout de faire un texte passionnant. Ce que ça peut mettre en cause, c'est la dimension génétique de la chose. Une génétique sans trace, c'est pas la peine d'y penser. Les Brésiliens ont inventé cette hypothèse, c'est une sottise. Enfin, je veux dire, c'est une fiction quand même, pure. Parce que ça devient là véritablement du rêve, quoi.
Oui et non, parce qu'une génétique sans trace ne signifie pas, parce que vous êtes dans la tradition du texte en tant qu'écrit. On devrait plutôt parler d'écrit que de texte. Dans une tradition comme la tradition haïtienne, il y a des traces orales qui existent, qui sont des textes. Par exemple, dans le cas de Franck Etienne, on sait très bien que l'histoire des zombies ressuscités par le sel, non seulement c'est une histoire populaire, mais c'est une histoire qu'on retrouve déjà chez un écrivain américain qui l'a.
Non, vous avez tout à fait raison.
Ce sont des traces qui ne sont pas rien. Et Franck Etienne lui-même, par exemple, dans une entrevue, il parle de cette trace importante qu'est la Gaguerre. C'est un espace important qui constitue une trace que l'écrivain va utiliser. Comme toutes les traces qui sont liées à des interprétations du vaudou ou des pratiques vaudouesques qu'on trouve dans le texte sont des traces.
Non, mais vous avez complètement raison. J'ai oublié de... Parce que là, c'est vraiment une autre question. C'est une autre question qui a été quand même vraiment posée dans notre histoire critique occidentale, hein, qui est celle de la tradition orale, qui est quand même toute l'histoire du Moyen-Âge, en gros, et jusqu'au XVIIIe siècle, qui a fait l'objet d'une rationalisation. Le problème, c'est que c'est un peu décalé. Vous avez, d'une certaine façon, une actualité de cela.
Oui, on a une actualité de cela, et aussi, et là je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut faire attention aux confidences. Donc, par exemple, je vous ai envoyé deux documents sur Franck Etienne. Une entrevue avec Ulrich Fechtmann, fait à peu près au même temps que l'entrevue avec Jean-Dominique. Il dit deux choses par rapport à l'origine. Et je sais que la vraie version, et là je mets entre guillemets la vraie version, parce que je vous explique pourquoi, c'est celle qui est racontée avec Jean-Dominique, parce que c'est celle justement que son frère m'avait déjà donnée, qui était témoin de cette conversation ultime qui allait provoquer l'œuvre et que Franck Etienne confirme dans l'entrevue avec Dominique.
Ben oui, là vous raisonnez
comme un policier. Exactement. Mais je suis policier, tout le monde m'a dit. C'est une carrière que j'aurais dû faire. Mais
bon. Ouais, vous répondez vous-même à la question. Parce non, que mais, qu'est-ce qui fait la validité dans votre récit de Genèse? Et ben c'est tout ce faisceau de probabilités qui font que c'est ce récit-là qui est probablement le plus vrai.
Mais on n'a pas d'éléments, dans certains cas, comme. Et toutes ces données de statistiques, ça on peut le faire, on peut voir les récurrences, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas ces traces matérielles, physiques, palpables.
Je crois qu'il faudrait dire, pour que les choses soient tout à fait claires, qu'il n'y a pas de récit de Genèse qui puisse être comparable. Parce qu'il n'y a pas deux Genèse qui soient comparables. Même si vous prenez le même auteur. Vous voyez,
c'est comme les enfants.
Oui. Et c'est... si vous prenez le même auteur, mais d'une œuvre à l'autre, la technique va ressembler, mais elle va être déjà différente. Tout le contexte d'écriture sera différent, ce ne sera pas la même époque. les documents utilisés ne sont pas les mêmes, les interférences avec, avec les amours, la vie, etc., les voyages ne sont pas les mêmes, puisque c'est pas... Bref, si vous voulez, et à chaque genèse différente va correspondre à un récit de genèse propre, différent. Donc, on est dans la singularité.
D'accord.
Ce que j'essayais de définir, si vous voulez, c'était les conditions justes, les conditions de faisabilité de la chose, si on veut être dans la génétique. Mais d'un côté, vous aurez une œuvre, vous n'avez pratiquement pas de brouillon, rien du tout. D'un autre côté, un jour, vous allez tomber sur un carnet avec tout un tas de modifications, avec du créole et du français. Et là, vous allez pouvoir plonger dans une sorte de marmite où se fabrique vraiment la chose.
Ouais. Bon, l'autre question, parce que j'en ai deux ou trois, et puis après j'ai deux petits commentaires à faire, mais j'aimerais pouvoir les faire si tout le monde me le permet, compte tenu de l'urgence de ma situation. J'essaie de profiter. Dans le cas de Franck-Étienne, comme vous le savez, je passe d'un texte dans une langue et un texte dans une langue, ce que Claire a fait avec Ribé, rapidement. Mais. Le volume du texte de Franck-Étienne étant différent de celui de Rabi, l'ensemble des transformations étant beaucoup plus différent. Moi, j'ai beaucoup aimé le fait que vous dites à un moment donné, on doit pouvoir prendre cette distance et dire là, on est dans le probable, parce que j'en ai un certain nombre de probabilités que je n'arrive pas à résoudre. Et quand on ne peut pas prouver l'inexistant, tout ce que je peux dire, c'est que moi, je ne vois pas encore comment la transformation s'est faite. Est-ce que ça, c'est un point de vue qui vous semble acceptable ?
Non seulement c'est acceptable, mais je pense que ça fait partie des conditions de la scientificité du discours. Il faut être capable de dire, on ne sait pas. Il faut être capable de dire, ça, ça relève, dans l'état présent de nos connaissances, de l'inconnaissable. Et puis, vous savez, en génétique, il y a quelque chose de très singulier par rapport à tout le reste des méthodologies, c'est qu'on ne maîtrise pas ce que l'histoire va nous apporter. Tout d'un coup, un lot de manuscrits sort. On n'imaginait même pas qu'il existait. Et bien il est là. Et il vous oblige à revoir un certain nombre de conclusions. Ou bien, il prouve que vous aviez raison. Et souvent c'est le cas. Souvent, quand l'analyse génétique a été, même sur un petit domaine, bien menée, et bien elle est confirmée par les choses qui réémergent et qui, au fond, rentrent dans cette même logique, qui apporte deux, trois choses de plus, mais qui sont cohérentes. Donc, je crois que la question des degrés de certitude et la capacité du récit de Genèse à dire les zones dans lesquelles on est obligé à des pures et simples conjectures, c'est nécessaire. Puis il y a les hypothèses. Les hypothèses, c'est quand même un petit peu plus sûr que la conjecture. C'est l'idée que si on a ça et ça, peut-être bien que ça va donner ça. Puisqu'on a vu que, dans d'autres cas, ça donnait ça. Les hypothèses, on est plus dans la démonstration, avec pas de preuve quand même au bout du compte, mais une possibilité.
Bon, je vais terminer par deux petits commentaires qui sont à la fois des questions. Claire a soulevé le fait que c'est difficile d'être sur cette corde raide science-art. Mais on oublie que la médecine, c'est ça. La médecine, c'est d'abord un art avant d'être une science. Et qu'un médecin n'est pas un scientifique, contrairement à ce qu'on pense.
Enfin, la chirurgie, par exemple.
Il utilise la science pour produire son art. Ce que donc, nous pouvons faire aussi. La deuxième chose, qui est à mon sens plus importante, c'est que, en vous écoutant, je me suis rappelé mes leçons avec Jean-Claude Gardin et Jean Molineux, parce que vous dites à peu près la même chose. Sur cette neutralité, la première étape, sur cette nécessité d'avoir du probant et de porter l'interprétation à la fin quand on a montré justement les séries de coïncidences, de convergences. Et je me dis, c'est quand même étrange, j'ai jamais vu, dans ce que j'ai lu dans la génétique, de référence, non seulement à Gardin qui était au CNRS aussi, Molineux n'a jamais été au CNRS, je pense. Mais Gardin était au CNRS, et les travaux de Gardin en archéologie me semblent très très proches de ce que vous faire en génétique.
C'est possible, il n'y a eu aucun effet sur le premier texte théorique.
Plus un petit mot, c'est que Garnet aussi a été l'un des premiers à travailler avec l'intelligence artificielle en sciences humaines. C'était un de ses grands intérêts, l'intelligence artificielle, comment produire des données scientifiques dans un travail archéologique.
Vous savez, les relations entre génétique et archéologie sont nombreuses et elles se sont beaucoup développées quand, à Normalsup, à Udub, on s'est retrouvé, par exemple, dans le cadre du LabEx Transfer, on a eu beaucoup l'occasion de discuter. Mais il se trouve qu'historiquement, la théorie génétique, elle a été menée sans référence à l'archéologie, alors qu'il y avait toutes sortes de raisons qui a dû mener à nous rapprocher des archéologues, ça c'est clair, mais parce que ça a été mené, c'était politique, c'était mené dans les nouvelles universités de gauche, Vincennes, Jussieu, qui étaient hostiles à la Sorbonne. Oui. Donc c'est dans l'affrontement entre une Sorbonne qui résistait à la modernité, qui ne voulait pas entendre parler de structuralisme, etc., et l'émergence de jeunes universités qui n'existaient pas avant, hein, Paris 7, Paris 8, ça existait à partir des années 70, que la théorie s'est faite beaucoup plus de façon agonistique contre la philosophie, la littérature, etc. Et on n'avait pas encore fait la jonction avec d'autres disciplines. Ça vient plus tard. Et donc, on a sûrement raté au début les archéologues, ouais. Mais on est très proche. Et même, je dirais, puisque quand j'étais directeur de l'ITEM, j'avais envisagé de créer des solidarités avec les archéologues, parce qu'ils ils ont des outils, par exemple, de simulation 3D infiniment plus puissants que les nôtres. Wow. Et on pourrait tout à fait utiliser une partie de ces outils pour... comme j'avais proposé dans les années 80, donc il y a quand même un bon moment, hein, pour créer des logiciels de simulation des avant-textes. Mais, voilà, évidemment...
Oui, ce qui fait partie du projet MONU, justement, c'est qu'on ne peut faire une critique sans arriver à une simulation. Il faut que nos modèles puissent nous permettre de simuler et de montrer que ça se fait. Donc, c'est pourquoi ça m'étonne un peu. Mais j'avais juste oublié que j'avais une dernière question un peu plus pragmatique. Je ne sais pas comment ça se nomme en français, mais aux États-Unis, dans mon département en particulier, on développe le forensic linguistics. Qui est en fait un piratage de modèles d'analyse littéraire qui se rapproche un peu de ce que vous disiez à propos de la police, et que nous, on perd cet argent-là. Et je me demande comment on pourrait, et ça c'est très pragmatique, une question, vous ne voulez pas répondre, mais je lance comme ça, comment on pourrait, nous, en tant que littéraire, rentrer dans ce gros paquet de frais qui est en train de se dépenser dans la police, où on fait appel à des linguistes qui ne sont pas forcément capables d'analyser les problèmes de style, des variables, etc., mais ils se donnent cette idée et qu'on engage à des coûts exorbitants. Quasiment toutes les polices du monde maintenant travaillent avec forensic linguistics. Je ne sais pas comment on l'appelle en France, mais c'est l'idée que pour, par exemple, refaire une recherche sur les terroristes, il faut analyser leur discours. Comment recouper pour savoir si ce discours-là correspond au discours réel de ce groupe ou si c'est un faux. Parce qu'on est en plein dans ce qu'on faisait depuis la nuit des temps. Sauf qu'on n'approche pas, nous. Et on a besoin d'argent pour faire nos recherches. Alors, comment on pourrait penser, excusez-moi, je suis un marchand, mais la recherche coûte cher. Comment on pourrait penser utiliser nos ressources pour pouvoir attirer ces gens-là et permettre avec ce parent-là de faire ce qui nous intéresse vraiment, c'est-à-dire travailler sur Proust, sur Schubert, sur Étienne, sur Dill.
Non, c'est une très bonne question qui a été posée autrefois, elle l'est moins maintenant, mais par exemple à l'époque de Louis Aigle, quand il était directeur du labo, on avait un contrat avec un laboratoire d'analyse matérielle de l'écriture et qui nous avait conduit à faire la proposition d'un brevet d'authentification des signatures. C'est-à-dire que, en partant du principe que dans un brouillon, par exemple, le même mot va être écrit de façon différente par le même auteur, mais à travers une forme variante, et on avait établi l'hypothèse qu'on pouvait créer, en prenant plusieurs exemples de formes différentes de cette graphie, on pouvait créer le spectre de Fourier qui permettait d'être sûr que ça entrait ou non dans les possibles de la forme. Et ceci permettait deux choses, d'authentifier de manière certaine l'identité d'une signature, et d'autre part, si on avait assez d'échantillons pris dans le temps, de dater cette signature à 2 ans près, à peu près, puisque ça évolue au cours de la vie. Mmh. Voilà. C'est un exemple de lien direct qu'on avait avec la recherche, et notamment la recherche d'informations et la police. Et moi, j'avais été tenté d'aller plus loin, c'est-à-dire de vendre aux banques un authentifiant automatique des signatures. Ouais. Et malheureusement, pour moi, quand je n'ai pas été entendu par la directrice de l'époque qui était Vasillon, ouais, un autre. Et ensuite, les signatures, ça a baissé de plus en plus pour les codes d'identification qui sont maintenant des codes secrets. Mais bien sûr qu'il y a tout ça. Vous avez complètement raison. La génétique devrait pouvoir s'intéresser aux formulations sur vidéocassette ou sur fichiers numériques variantes des terroristes, bien sûr. On est en plein dans le cas d'éléments objectifs qu'on peut identifier par leur métamorphose, leur transformation, par le retour de formules, par le lien entre la phraséologie codée de ces
oui, ils ont un vocabulaire, ils ont une syntaxe.
Voilà. Et puis la façon.
Tout ce qu'on a étudié, nous, oui. Et qu'on pourrait utiliser bien pour avoir plus d'argent pour faire des recherches.
Bien sûr, de toute façon, la génétique est loin de se border au beau texte littéraire. Hein. On a déjà fait des avancées importantes en histoire de l'art, en histoire des sciences. Moi, je militais, maintenant, c'est plus tout à fait à l'heure du jour, mais sur l'idée qu'on devrait s'approcher des historiens aussi pour travailler. Vous voyez, il y avait une chose qui était absolument magnifique qui a eu lieu à l'époque de la commémoration du bicentenaire de la Révolution. Il y avait un groupe d'historiens qui avait travaillé sur la déclaration des droits et aussi sur la relation entre la Déclaration des droits et ce qui avait précédé, c'est-à-dire les États généraux. Et donc, toutes les participations des provinces, des gilets jaunes de l'époque, on disait, nous, on n'est pas content, parce que c'est utile, voilà. Et ils avaient montré comment, au fond, c'est un processus d'écriture. Ouais. Hein. Chacun donne son texte, et puis on essaie d'en faire un texte qui va faire la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ils avaient montré comment la Déclaration des droits de l'homme, qui reste un texte évidemment universel, hein, s'est écrit dans le refus ou la censure d'un nombre considérable de propositions, d'idées, de machin, et que si on mettait ensemble toutes ces propositions, toutes ces idées, eh ben on a la Révolution de 1830 derrière, la Révolution de 48 et la Commune. C'est extraordinaire. C'était extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y avait déjà tout en germe. Mais on ne pouvait pas tout dire. Mm-hmm. Et si on voulait être vraiment universel, on ne pouvait pas parler de... Mais la fracture du peuple de 48 était là. Quoi. Il y avait les pauvres, les plus que pauvres. Enfin, moi, j'avais trouvé ça fascinant. Et c'était de la génétique. Hein. C'est-à-dire qu'on montrait comment, petit à petit, un texte s'apurait, mais en même temps, perdait un sens énorme. Quoi. Et l'histoire allait être chargée, lourde, de ce qui avait été enlevé. Là, il y a des choses merveilleuses à imaginer avec les historiens quand ils rentrent dans l'analyse de documents variants, comme ça, de documents qui sont en pleine transformation. Ouais.
Bonjour. Peut-être oui, une remarque d'abord. J'étais tout à fait intéressé par la double dimension d'enquêteur et cette ambition, parce que... C'est du reste, d'ailleurs, il me semble, ce qui est, en même temps, les deux, hein, ce qui est reproché souvent aux généticiens ce travail d'enquête fastidieux et cette ambition. Et bon, moi ça m'intéresse, je suis en train de comprendre pourquoi, parce que je viens de la littérature comparée et que dans la littérature comparée on a aussi cette double dimension. Finalement, moins la prétention d'avoir une discipline théorique, théorisée, que un ensemble de disciplines ou de théories mises à la disposition d'un projet. Et ça, c'est intéressant. Pour moi, il ne peut y avoir, tant pis si ça paraît immodeste, mais je pensais que pour toi, dans la façon dont tu le disais, c'était exactement la même chose, il ne peut y avoir d'approche génétique qu'intégrale. Surtout dans la perspective qui est la nôtre dans Planète Libre, qui est de travailler sur une œuvre complète.
Bien sûr. Hein?
Et bon, alors la question précise que j'ai, et chacun revient à sa propre recherche, c'est comment placer le journal intime là-dedans. Dans le processus génétique, le journal intime n'a pas sa propre genèse.
Non.
En principe, encore que. Il y a des brouillons du journal intime. J'ai pu m'en rendre compte à travers mes mis, les fameuses petites fiches que dans des lieux autres que le lieu de rédaction, les notes qu'il prend en voyage, des choses comme ça, qu'il re-rédige encore. Voilà. Bon, mais c'est très très limité. En revanche, le journal intime est un élément génétique de l'ensemble de l'œuvre. Donc toute l'œuvre est déjà, d'une manière ou d'une autre, dans le journal intime. Comment intégrer tout ça ?
Alors, c'est une question vraiment importante parce que, bon, déjà réglons la question des carnets qui pourraient être à l'origine, antérieur. Bon, ça, c'est très intéressant, évidemment. Tu vois, mais il y a aussi dans la correspondance quelquefois des brouillons de lettres.
Oui. Les brouillons de lettres, on peut les insérer.
Oui.
Et d'ailleurs, souvent, l'auteur les intègre lui-même au journal intime.
Quelquefois. Ouais. Mais, comme tu dis, la question fondamentale avec le journal intime, c'est qu'il est, de cette façon, à la racine, pratiquement, de toutes les genèses qui vont avoir lieu. Et c'est tout à fait fondamental parce qu'il est la médiation écrite. Tu vois ? C'est la médiation écrite des circonstances et de l'environnement. Parce que, bien souvent, quand les étudiants t'interrogent sur le périmètre génétique, il faut leur expliquer que un événement, un lieu n'est pas génétique en lui-même. Hein. Par exemple, je ne sais pas, Flaubert voit une montagne qui a cette forme. La montagne elle-même n'est pas génétique. Ce qui va être génétique, c'est ce qu'il en dit dans un carnet qui me prouve, un, qu'il s'y intéresse, qu'il l'a vu, et deux, qu'il il a transposé cette forme avec ces mots-là. D'une certaine façon, le journal intime, c'est le processus par lequel du circonstanciel, du biographique, devient de l'écriture. Et par conséquent, entre de plein pied dans la matière génétique elle-même. Il est ce qui transforme, pour toi c'est décisif, parce qu'il est ce qui transforme du biographique, sur lequel on peut toujours poser toutes sortes de conditions et de soupçons d'incertitude.
Absolument.
En quelque chose qui est de l'écriture, qui sera donc du même médium que le texte auquel éventuellement il va donner naissance, ou qu'il va modifier. Et c'est donc tout à fait décisif. Il y a plein d'écrivains dont on n'a pas le journal intime. Et là, on est très, très, très embêté, parce que on peut avoir des éléments de biographie, mais qu'est-ce qui prouve que c'est bien ce truc-là qui s'est transformé en cela dans son œuvre, dans le journal intime ou dans le journal, l'agenda, le carnet de voyage, etc. On a très souvent des séquences qui glissent directement de l'origine à l'œuvre en se transformant, et qui peuvent être vraiment une démonstration du lien.
Et finalement, il y a deux possibilités. On en a exploité qu'une, d'éditer un journal intime. On pourrait l'éditer, c'est ce que nous avons tenté de faire, non seulement avec Mamie, mais probablement avec les carnets bleus également, et ailleurs, comme nous le faisons comme un texte, mais ou alors utiliser dans les œuvres que ce journal intime a suscité, a contribué à créer des éléments de ce journal intime comme des éléments de genèse.
Absolument. À partir du moment où il est publié, c'est déjà plus facile de le faire.
Absolument.
Que quand il ne l'était pas. Parce que, je te signale quand même que tu travailles sur de l'inédit, donc quelque chose que tu découvres et que tu fais découvrir au même moment.
Ça, c'est une autre dimension.
Bah, oui,
c'est là qu'on devient artiste.
Oui.
Et c'est là en plus qu'on a une motivation qui est celle de l'artiste, c'est, qui est la passion.
Mmh. Bah, oui, passion. Oui, c'est pour ça que je crois que le récit de Genèse, il doit quand même être capable de communiquer cette empathie, cette espèce d'admiration, quoi, et d'aventure intellectuelle.
Moi, j'aurais une question, sans doute très naïve, donc je m'en excuse à l'avance, qui concerne une proposition que m'a fait un artiste, donc vivant, donc à la différence des auteurs dont vous venez de parler, qui considère son travail est une œuvre.
C'est le moins qu'on puisse faire quand on est artiste.
Ouais. Ça. Et donc, en fait, il a tout écrit en pensant qu'un jour, les chercheurs s'intéresseront à son travail. Donc, il a tout
c'est pas
gardé.
Très bon signe, ça.
Il a tout gardé. Qu'est-ce qu'on fait? Quel statut on peut donner à quelque chose qui vous est prétendument donné comme ça, clé en main, et qui semble donner la totalité du processus de sa création?
Moi, je vous dirais que, personnellement, je commencerai un peu par me méfier, parce que un artiste qui est plus préoccupé de léguer ses brouillons que son œuvre, ça peut être un obsessionnel génial, hein, c'est possible. Mais déjà, lisez l'œuvre, si elle mérite
c'est
à votre avis.
Je suis entrée d'abord par l'œuvre.
Bien.
De mon point de vue, oui.
Ouais.
Il y a du théâtre, il y a du roman.
Oui, non, mais c'est du bon théâtre. C'est
voilà.
Ouais. Bah, à partir de ce moment-là, c'est peut-être quelqu'un qui a tout à fait pris conscience de l'importance qu'a réellement aujourd'hui la génétique sur le statut d'une œuvre. Je pense que réellement, les gens qui aujourd'hui communiquent leurs archives, ils ont beaucoup plus de chances que d'autres d'avoir une œuvre qui aura une certaine longévité dans la culture. Hein. Parce que c'est une façon de réanimer en permanence la recherche dessus, c'est une façon de faire revivre au présent la naissance des œuvres. Donc, c'est pas par hasard hein, que les dépôts d'archives ont lieu, c'est avec la conscience chez les artistes de plus en plus que ça va jouer un rôle après leur mort sur la postérité. Quoi. Donc, peut-être que c'est simplement ça, que c'est un type génial qui s'est dit, il faut, j'oublie pas ce truc.
D'une certaine façon, moi je me dis qu'il a déjà écrit quelque chose.
Oui, alors en revanche, ce qu'il faut tout de suite comprendre et préciser, mais ça je l'ai dit et redit, c'est que ce qu'il dit lui sur la genèse de son œuvre est vraisemblablement faux. Ouais. C'est la manière dont il se met en scène lui-même, dont il cherche à donner l'impression que. Et ça n'a pas forcément grand rapport avec ce qui s'est réellement passé. Hein. Et ça, un bon généticien saura le dire très très vite, en ayant d'un côté les documents de Genèse réellement, s'il y en a, si c'est pas des trucs trafiqués. Hein. Et puis le discours qu'il peut tenir sur le processus lui-même. Son discours sur le processus est une œuvre, c'est tout.
Oui, c'est ça.
C'est pas...
Okay. Merci. Peut-être dernière question, je sais pas. On a un problème pédagogique avec la génétique. S'agissant du Maghreb, par exemple, il y a une forte opposition à la discipline, qui crée en même temps une certaine paresse intellectuelle, je pense, en ce qui concerne l'enquête. Et puis, chez les enseignants, chez les collègues, à la deuxième idée, c'est-à-dire c'est une discipline prétentieuse et non pas ambitieuse, qui prétend. A eu les mêmes reproches à propos de la comparée, hein, qui prétend toucher à tout et finalement. Voilà. Et comment arriver à contourner ça? Parce que, bon, en plus, je pense que. Moi, j'ai toujours joué, en particulier quand j'étais en poste à Montpellier, sur ce sentiment de passion à faire partager à l'étudiant, en créant non pas des cours, mais des ateliers où l'étudiant pouvait toucher tel ou tel document et procéder lui-même à cette enquête sur quelque chose de très précis. Mais là, on a des difficultés à le faire en Algérie. Deuxième raison également, pour le rapport à l'archive qu'ils ont.
Il y a plusieurs réponses très intéressantes à essayer de combiner, je pense, sur ces questions-là. D'abord, c'est pas seulement en Algérie, en France c'est pareil, et dans le monde entier c'est pareil. Il y a eu quelques pays qui ont, comme le Japon, le Brésil, quelques pays européens qui ont suivi nos travaux et qui ont même vraiment développé de façon très puissante. Mais globalement, tout le monde anglo-saxon, par exemple, résiste. Tout le monde allemand et la Mitteleuropa résistent. Alors, derrière, il y a des raisons très profondes, des raisons qui sont d'ordre culturel et religieuse. Les pays qui marchent en génétique, c'est les pays jésuites. C'est les pays qui ont une tradition catholique, une tradition, disons, d'exégèse dans laquelle il y a de l'argumentation et du pardon. Les pays réformés, luthériens et calvinistes, pour qui il n'y a au fond que des élus, ça ne marche pas. Le texte, il est... La réforme, ça a été de rendre le texte propre de toutes les saletés que la tradition romaine avait pu y ajouter. Un texte propre et blanc, hein, c'est que le papier des Bibles réformées est blanc, tandis que le papier des Bibles apostoliques romaines est crème. C'est la couleur de l'ivoire de la tradition, tandis que la couleur des Bibles anglaises, américaines, évangélistes, etc., c'est blanc. Hein, c'est blanc, plus blanc que blanc. C'est la pureté. Voilà. Donc, il y a cette idée que, au fond, si tu discutes les arguments, comme le font les jésuites, oui, d'accord, t'as fouté, mais t'avais des raisons de fouter, papa. Ça, on est du côté de la génétique. Du côté de réformer, de toute façon, c'est à l'avance, Dieu avait tout dessiné à l'avance. T'as pas besoin de rechercher le processus. Tout est logique dans la tête de Dieu, tu vois. Et la tête de Dieu, c'est la
tout. Mais c'est peut-être une dimension également.
Ah non, je pense que c'est fondamental. Véritablement, dans ce que j'ai pu voir dans mes voyages, c'est fondamental. Si on reprend l'islam, l'islam, c'est pas très loin des réformés. L'islam, c'est le texte le texte du Coran a été donné. Hein, et la discussion peut jouer sur. Le texte du Coran, il est. Ce qui produit, je pense, comme malentendu par rapport à la génétique, c'est que c'est un manuscrit. Vous savez qu'il n'y a pas un seul Coran imprimé avant la fin du 19e siècle. Alors que les Arabes connaissent la presse coréenne depuis le 11e siècle, connaissent la presse de Gutenberg depuis le 15e siècle. Bon, ils avaient la possibilité d'imprimer, ils régnaient sur le monde, donc. Ils n'ont pas voulu de presse à imprimer parce que la presse pour eux est un instrument diabolique qui isole la parole de Dieu de la main de l'homme. Il faut que le contact soit permanent. Il faut qu'entre le corps de l'homme et le texte sacré révélé, il n'y ait aucune médiation autre que la plume. Par conséquent, la parole de Dieu est manuscrite. Mais la parole de Dieu est inchangeable. Non, c'est pas dans un contexte comme ça qu'on aime la rature. Non, non. Le manuscrit, c'est pas du tout un truc où quelque chose se transforme, prend des sens par une logique humaine. C'est ce par quoi la main, le cerveau, l'œil, la main, se fait l'instrument de Dieu pour écrire le texte vrai. Mais alors, si on reprend ta question, il y a des choses extrêmement simples. si tu veux faire une carrière rapide, faut pas t'embêter à aller chercher les brouillons et un truc. T'as des idées géniales, tu es un bon rhétoricien, tu prends un texte de Flaubert, de Proust ou de ce que tu veux, ou de Mémy, et tu fais une analyse thématique brillante. Ça ira très vite. Si tu es doué, tu seras remarqué. Et voilà. Et pour les étudiants, c'est pareil. Enfin, si tu leur dis, bon, on va travailler sur tel texte, mais attendez, d'abord, il faut que vous regardiez les brouillons, vous avez pour 3 semaines à les lire, ça. Pourquoi tel effort, quoi. On peut démontrer pourquoi. Mais la réaction première va être effectivement plutôt...
Oui, monsieur, ce qui m'intéresse, c'est pas finalement d'arriver à comprendre l'opposition, mais d'arriver à la dépasser. Parce que les moyens, finalement, on les aurait de faire des ateliers, de faire...
Oui, alors moi, j'avais avec les étudiants une double réponse pour ça. La première, c'est la grotte d'Ali Baba. C'est-à-dire, il faut se représenter l'archive comme la grotte d'Ali Baba. C'est-à-dire qu'il y a des trésors. Quoi. Des trésors qui sont trouvés nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Et c'est enfermé, il y a un sésame, tu dis le bon mot, tu rentres dedans, et tu fais ton marché. Et tout est donné. Et ce que tu vas trouver dans la grotte d'Ali Baba est très supérieur à ce que le plus génial des critiques pourra inventer sur le texte. J'ai quand même un peu moins intelligent que l'écrivain. Voilà. Et la deuxième argumentation, qui n'est plus dans le positif, mais qui serait plutôt dans le négatif, c'est « Et si je peux te démontrer, moi, avec mes brouillons, que ce que tu dis est complètement prétend ?» Que ton hypothèse que tu as fait comme ça, là, ben c'est le contraire de ce que voulait l'écrivain, de ce qu'il voulait dire, etc. Hein, je te le montre, voilà, c'est là. Voilà. C'est. Bien sûr que la légitimité de n'importe quelle interprétation repose aussi sur le plein pouvoir du critique. Pourquoi pas, hein. Mais il y a une différence entre ce qui est du délire d'interprétation, qui peut être très beau, très bien, peut être une œuvre à soi tout seul, et ce que autorise l'archive, hein, ce qui est le véritable sens historique du texte.
Ouais. Pour ça, il faudrait avoir l'archive d'un texte majeur.
Ouais,
on revient à Nejma, par exemple. Si on avait
l'archive du Coran.
Finalement, de... Ah non, non, je... Ouais. Vous l'ambitiez ça.
Mais moi, je... La Guy, je voudrais juste rajouter quelque chose. J'ai eu la même expérience que vous, mais sauf que mes étudiants sont devenus passionnés. Par la chose.
Ah, mon ami aussi, ils sont devenus passionnés à Montpellier.
Parce que je leur ai montré que trop souvent, les critiques disent des bêtises parce qu'ils ne se soucient même pas du fait qu'il y ait des variables dans les textes et que d'une édition à l'autre, vous êtes en train de commenter quelque chose qui n'existe même pas dans la variable que vous êtes en train d'utiliser parce que quelqu'un a cité une autre variable. Et ça, c'est leur a ouvert les yeux. À partir d'un texte de Frankenstein assez exceptionnel, c'est mieux à crever, où il n'y a pas un seul exemplaire de la première édition qui soit identique. Ça, c'est un cas quasiment unique dans l'histoire de la littérature. Puisqu'il y avait beaucoup d'erreurs, il a donné à ses étudiants des ouvrages en leur disant de corriger. Donc, chacun corrige à sa manière. Les corrections. Donc chaque exemplaire est quasiment unique à cause de ces corrections. Et là, je montre à mes étudiants, je découvre cette page dans cet exemplaire sur votre bibliothèque ne correspond pas à cette page. Et là, ils étaient complètement bas. Et je pense que c'est des cas comme ça qu'il faudrait trouver. Des cas où leur montrer que vraiment la critique génétique a son importance, parce que ça nous permet de voir quel est l'état du texte à un moment bien précis, qu'on ne prenait pas forcément en pensant que tous les états sont les mêmes.
En tout cas, la première vocation de la génétique, c'est de rétablir des bons textes. Et si on regarde le travail à l'item, il y a pratiquement. Toutes les nouvelles éditions en livre de poche, par exemple, et en Pléiade, ont été faites par des gens de l'ITEM. Voilà. Et c'est, on calcule que, dans l'édition, que tous les textes majeurs sont chargés de 20 à 50 fautes lourdes. Les textes, grands textes canoniques de la littérature, pas seulement française, et qui ont été reconduites ou aggravées d'édition en édition. La première chose, c'est le retour au manuscrit. Et l'édition d'après le manuscrit, elle a été relancée par la génétique entièrement. Moi, souvent avec les étudiants, sur le manuscrit de Flaubert de la légende de Saint-Julien, il y a un cas tout à fait marrant. C'est quand Flaubert fait au début du récit la description du château des enfances du héros, de Julien, comme il s'agit d'un château, le père de Julien est très puissant, il n'y a pas besoin d'avoir de défense, donc les douves du château sont pleines d'herbes, parce qu'il laisse ça à l'abandon, ça n'a pas d'importance, il est trop puissant, il risque rien. Mais le copiste de Flaubert, quand il a copié, au lieu de mettre les douves étaient pleines d'herbes, comme lui, en 1875, il venait d'aller voir avec les enfants les châteaux reconstitués de Viollet-le-Duc, avec des belles douves, de l'eau et tout, le Moyen-Âge, quoi, du 19e siècle, mais les fossés étaient pleins d'eau. Voilà. Flaubert, qui ne sait pas bien se relire, ça ne l'intéresse pas, quand c'est plus manuscrit, il trouve ça un peu dégoûtant, la typographie, il ne regarde même pas, c'est publié, toutes les éditions, jusqu'à la mienne, en 1988, a fait des fossés pleins d'eau. Mais c'est totalement contradictoire avec le texte, parce que trois pages plus loin, le petit Julien, qui est devenu grand, il va dans les fossés pour assassiner un pigeon, et il l'étrangle, et quand le pigeon meurt, c'est comme s'il avait eu un orgasme, et tout ça est très chaud, parce qu'il y avait eu de l'eau, ça l'aurait refroidi, hein, quand même. Il ne serait pas arrivé du tout à ça. Et ainsi de suite. Il faut imaginer quand même que pendant un siècle, hein, 1877-1980, on a interrogé les étudiants sur ce texte en disant « Pourquoi les fossés sont pleins d'eau ?» Alors, ouais, voilà. Non, mais c'est, voilà, c'est ce que tu disais exactement.
Oui, mais si l'intelligent a donné la bonne réponse que ça ne marche pas, mais maintenant, non,
mais c'est le texte. Mais c'est le texte. Et ça, c'est vraiment l'argument d'autorité presque religieux.
On va montrer comment les textes pour être magnifique.
En tout cas, merci. Ce genre de retour aux sources, c'est le cas de le dire, est vraiment salutaire pour nous. Hein.
Je crois qu'il y aurait des...
Il faudrait que ce soit renouvelé sur d'autres points. Mmh.
Ouais. Mais sur une source, il faudrait certainement... Mais... Ben oui, pourquoi pas.
Une question à poser là-dessus. Parce que, bon, on est chacun, effectivement, dans son... Ouais, je pense à paroisse. Ou...
Ben oui, bien sûr.
Donc, toi, tu es effectivement avec Flaubert. Bon, mais quand on est avec des écrivains ou qui sont... C'est pas près de la Seine, donc ils considèrent la Seine comme un petit ruisseau. Mmh. Oui, bon.
Ouais.
Et surtout, pour qui retour aux sources et n'est pas interdit, mais ne considère pas que c'est fait partie de la vie du texte, et qui même, pour qui la notion même de texte est étrangère, puisque on ne voit jamais le mot texte. Voilà, donc ça pose un problème. On a l'impression parfois d'imposer quelque chose, un carcan. Je reste sur le. Je suis sûr sur l'article, le texte n'existe pas. Voilà, donc j'essaie de me couler dans.
Le texte n'existait pas, vous ne voulez pas dire que les beaux gens n'existaient pas.
Non,
vous voulez dire que la notion sur
l'entité du texte.
Ça, je crois que ça fait partie des conditions préalables de. Effectivement. De la génétique, ouais. Entre la première édition de La peau de chagrin de Balzac et l'édition Furet corrigée, qui est la dernière édition de Vivant, on passe d'une édition de 150 pages à 350 pages. Donc, est-ce que c'est le même texte?
Alors, bon, je te pose juste une dernière question pratique. J'ai du mal à voir qu'il est. Même pourquoi faut-il forcément un récit de jeunesse? Tu décris son dossier génétique, etc., et tout le truc. Pourquoi faut-il comme un récit des origines ou un...
Non, je crois que j'ai essayé de dire qu'il ne s'agit pas seulement des origines, il s'agit des processus et de la transformation intégrale de. J'ai bien dit qu'on pouvait avoir des objectifs très variables. Donc,
ouais.
On peut aussi avoir l'objectif de ne pas écrire un récit de jeunesse, évidemment. On peut aussi, si les conditions éditoriales ne permettent pas mieux, on peut aussi essayer de rapporter à certaines notes des observations sur ce qui a pu exister avant le texte qu'on publie. Il n'y a aucune nécessité à rien, de toute façon, c'est bien.
Donc,
C'est comme si Hercule Poirot, après s'être échiné à faire son enquête, ne donnait pas les résultats au cas où je
vais en arriver. Non, mais quand on a. On est face à un. Alors, on ne sait pas si c'est un brouillon ou un début de. Bon, bref, un manuscrit. Tu composites, par exemple. Je prends un exemple qu'on a pris dans une masterclass. Hein.
Oui,
c'est un manuscrit, donc. Il a d'abord. Bon, on va éditer, même si là il y a un imprimé mais qui est très différent, mais bon. Et là, il commence par un poème, une liste de préface, qu'on a publié d'un poème. Oui. Et bon, ensuite il y a une sorte de préface cette fois qui est une sorte d'essai politico, ce que tu veux. Bon, après commence proprement dit la pièce de théâtre. Oui. Bon. Alors, l'essai, on l'a publié parce qu'il est inédit, qu'il est très intéressant. Et puis, ce poème, qu'on a publié dans le poème, je me dis, alors moi, je ne l'ai pas transcrit. J'ai dit, bon, on l'a publié dans le poème, j'irai juste. Et après, je me suis dit...
Ben, c'est un poème, j'ai dit complètement.
Il y a quand même quelque chose de très fort dans cette... est-ce qu'il n'y a pas un rapport entre, quand pas même... Sûr. Alors, on peut se dire, oui, il en a profité pour publier un de ses poèmes, il pensait pour... On peut avoir cette... Mais, bon, qu'est-ce qu'il avait dans la tête en publiant... Oui, non, mais voilà, voilà. Non, on peut rester sur cette. Et je me dis, ben, non, je crois que j'ai envie de le mettre. Même s'il a peut-être mis après, je, là, c'est pas évident.
Je te réponds.
Oui.
Il y a plein de manuscrits qui sont composites. Il faut penser qu'un manuscrit, c'est des dépôts temporels, en fait. Et dans ces dépôts temporels, il peut y avoir des choses d'ordre différent. Vraisemblablement, ça n'a pas été écrit au même moment. C'est des couches. Ah. Ouais. Bon, peu importe, ah, bon, on peut essayer de le déterminer ou non. Après, on peut avoir des obligations thématiques de répartir l'édition de ces différents dépôts. Là, comme tu dis, bah, on publie la poésie, il faut que la poésie soit complète, on va le mettre. Mais il y a un moment où il faut être capable de reconstituer aussi ce qui est l'interférence de ces choses qui cohabitent, quoi. Ça n'a pas le même sens, le poème tout seul et lui avec les deux autres morceaux. C'est-à-dire qu'il faudrait être capable d'avoir à la fois chaque élément du puzzle et puis le puzzle complet. C'est très fréquent, par exemple, chez Proust, c'est en permanence, ça. C'est cette espèce d'interférence étoilée, quoi. Moi, je ne pense pas qu'il y ait de solution générale là-dessus. C'est toujours sui generis, c'est toujours selon... le cas, et dans les écrivains comme ça, proliférants, comme c'est de Sonic, vous parlez là.
Ouais. Bah, ouais, c'est... Sur le fleuve, il y a des bouquets de jetons d'eau qui dérivent sur le fleuve. Je dis, voilà.
Mais c'est une richesse dont il faut que le récit de Genèse puisse tenir compte. Moi, je pense. Quant à la nécessité du récit de Genèse, il est, juste, comme disait. Tout à l'heure, notre ami, c'est une question de transmission d'émotion. Hein, tu peux ne pas chercher à transmettre l'émotion, mais alors à quoi bon devenir éditeur ?
Non, mais l'émotion, elle apparaît en plein dans le... Tu la prends en plein de... quand tu vois, quand tu la montres.
Mais elle ne garde pas pour toi.
Faut la
on la garde pas pour toi.
Mais non, mais justement,
partage-la.
Tu publies en général un facsimilé
Mais est-ce que ça s'inscrit pas aussi dans la réflexion sur le rôle, enfin, pas le rôle, mais la place du chercheur ? Tout simplement, comment on va répartir les différentes strates du texte ?
Bon, je pense que c'est une vraie question aussi. C'est pas le récit Genèse, il peut être multiforme, il peut se trouver, je te dis, d'une simple note à un vrai grand récit. Mais quand tu fais l'introduction de ton édition, et que cette édition tient compte des manuscrits, c'est là où jamais. Ouais. Tu peux faire ton récit.
Non, ce que je voulais dire, c'est parce que tu as employé le terme de storytelling de Salmon.
Mmh. Ouais.
Tu sais qu'il a fait un autre livre après, qui s'appelle L'ère du clash.
Mmh.
Donc voilà, il y a peut-être une autre façon de faire avec le clash.
Oui,
après, story.
Si tu veux, on peut en reparler la prochaine fois.
Oui.